Bonjour messieurs et dames, bienvenue dans notre émission Terre promise ou enfer sur les ondes de Vision Chalamunga. Une production de l'initiative chrétienne pour la paix, la réconciliation et le développement, ICPRD, en partenariat avec Grand Lac TV. Le thème de ce jour est l'exploitation minière à Mwenga, entre richesses du sous-sol et souffrances de communautés. Le territoire de Mwenga, une région au sous-sol extrêmement riche, mais où les populations locales vivent souvent dans la pauvreté et la dégradation environnementale. Nous nous plongeons dans un secteur crucial pour l'économie mondiale, mais aussi source de défis environnementaux et sociaux. Pourquoi cette contradiction? Que se passe-t-il réellement dans les sites d'exploitation? Et quelles sont les responsabilités des exploitants miniers? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un exploitant minier actif dans la zone de Mwenga qui a accepté de répondre à nos questions sous couvert d'anonymat. Nous explorerons des modes d'exploitation, l'impact sur les communautés locales et les initiatives pour une exploitation plus durable. Restez avec nous pour découvrir des témoignages fascinants et des analyses approfondies. Marie-Adrienne Riziki, je suis à la présentation. John Shindano assure la supervision. Bienvenue à tous.
Messieurs, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Nous parlons aujourd'hui de la situation de l'extraction de minerais à Mwenga. Et comme le stipule notre thème, nous parlons surtout de l'état d'exploitation de minerais à Mwenga. Pouvez-vous nous parler un peu comment est-ce que vous faites votre travail, depuis quand vous êtes opérationnel dans les secteurs de Mwenga? Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez? Et surtout, parlez-nous un peu de ressources que vous trouvez dans les secteurs de Mwenga.
Je m'en vais vous parler brièvement parce que c'est toute une école. Moi qui vous parle, j'ai commencé l'exploitation du minerai depuis 2021 dans le territoire de Mwenga, quand bien même j'avais commencé il y a longtemps dans d'autres territoires. L'exploitation des minerais exige beaucoup de paramètres. Soit on est exploitant artisanal, soit on est exploitant industriel. Moi, j'ai évolué dans l'exploitation artisanale, donc au sein d'une coopérative. Nous avons une coopérative, cette coopérative qui encadre les exploitants, les orpailleurs, communément appelés les calendres dans la langue locale. Nous les encadrons pour qu'ils ne puissent pas travailler de manière dispersée, que nous puissions les organiser, que nous puissions mettre des cerises dans les secteurs, car ça ne profite pas du tout aux autochtones, ça profite plutôt à ceux-là qui viennent de l'extérieur ou soit à ceux-là qui achètent les résultats de l'exploitation artisanale. Nous, en tant que coopérative, nous sollicitons des documents auprès des services habilités. Lorsque nous obtenons des documents auprès des services habilités, notamment la division des mines, et lorsque la division des mines, qui est la première étape, donne son avis favorable, son avis de conformité, à ce moment-là, on peut solliciter les documents au niveau du ministère national chargé, et il y a dans ses attributions les mines, notamment le ministère national de mines, à travers sa direction générale aux mines qui prépare un document communément appelé le projet d'arrêté. Et aussi, aussitôt que le ministre reçoit les documents, à ce moment-là, il envoie l'agrément national. À ce moment-là, la coopérative, elle est conforme à la législation minière congolaise. Nous commençons à travailler, non seulement parce qu'on a obtenu les documents, il y a d'autres normes que nous devons observer. Nous devons travailler avec notre encadreur qui est un service public de l'État, notamment les SAIMAP. Le SAIMAP, c'est le service qui s'occupe de l'exploitation minière artisanale. Ils encadrent, ils donnent des conseils, ils donnent des orientations aux exploitants artisanaux que nous sommes. Et lorsque nous les faisons, nous devons quadriller tous les secteurs, ces exploitants artisanaux, nous devons les conscientiser, les sensibiliser, les former sur les enjeux relevant de leur secteur, tous les dangers possibles. Ils doivent prendre leur adhésion au sein de notre coopérative, non seulement qu'ils doivent nécessairement prends notre adhésion, c'est notre coopérative. Parce qu'il peut y avoir autant de coopératives dans une entité, il peut y avoir même 20, même 100, c'est le libéralisme. C'est là qu'on a des capacités, c'est là que telle ou telle autre personne se sont mises ensemble, ils réfléchissent, ils créent une coopérative pour encadrer ces exploitants. Alors, ceux-là qui sont membres à notre coopérative, qui ont pris leur adhésion au sein de notre coopérative, nous les encadrons. À ce moment-là, ils doivent acheter notre carte des membres communs, membres appartenant à notre coopérative, pour qu'ils puissent bénéficier de notre assistance, de notre accompagnement, de notre soutien à tous les niveaux. À ce moment-là, ça nous permet à ce que nous puissions chercher auprès de l'État. C'est une manière de chercher donc comment mettre du sérieux, d'éviter les désordres dans le secteur. Et à ce moment-là, nous jouons le pont entre les exploitants artisanaux et l'État congolais. Nous pouvons chercher les cartes des créseurs. Chacun paie cette carte-là d'exploitant. Actuellement, c'est 10 dollars qu'on achète cette carte. Ça nous donne une garantie. Il ne peut plus être victime d'une quelconque tracasserie, des agents de l'État. Et c'est cette carte-là qui l'identifie comme tel, comme exploitant, parce qu'on ne peut pas manipuler les substances minérales sans qu'on ne soit autorisé. Cette carte lui donne déjà le droit d'exploiter les minéraux. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait aussi ce qu'on appelle la fiche d'identification de l'exploitant minier. À ce moment-là, cette carte, plutôt cette fiche, elle est octroyée par les services techniques de l'État. C'est le SAIMAP. Nous allons au SAIMAP aussi. Nous pouvons demander les carnets, ces fiches d'identification. On nous donne ces coupons. À ce moment-là, nos membres seront en train de venir à notre bureau. Ils l'achètent, qu'ils identifient comme tel.
Mais s'il vous plaît, est-ce que ce n'importe qui, toute personne qui veut exploiter les minéraux, qui peut venir devant votre porte?
Oui, madame, c'est toute personne, à condition qu'elle soit congolaise. Parce que l'exploitation artisanale, elle est reconnue au seul Congolais. Cette personne, nous la connaissons pas, il doit d'abord nous présenter sa carte de lecteur, qu'il identifie comme telle, appartenant à la nationalité congolaise au territoire congolais. Parce que le code minier est clair quant à ça. Ne peut faire l'exploitation artisanale de minéraux que le seul Congolais. Alors, à ce moment-là, il doit venir avec sa carte de lecteur. Quand il vient avec sa carte d'électeur, il paie les frais, la fiche d'identification du SAIMAP, ça se va à 5 dollars. Alors voilà les rôles de nous comme exploitants, nous comme encadreurs, nous comme coopératives, nous jouons les ponts. Cet exploitant-là, qui restait à Lougouchois, qui restait en Djolindjoli, qui restait à Kigumo, qui restait, je ne sais pas, Mapal, qui restait à G8, G11, G12, G13, qui restait, je ne sais pas où, dans n'importe quel site, dans les territoires de Mwenga, partout où l'or est exploité, il doit être sous la couverture de l'État pour mieux assurer sa sécurité, pour faire une exploitation protégée, apaisée, assainie et sécurisée. Il faut qu'il soit encadré par une coopérative. À ce moment-là, la coopérative, c'est elle qui entre en contact avec l'État en faveur de ses membres.
Et à Mwenga, que trouvez-vous dans les sous-sols?
Dans les sous-sols, à Mwenga, nous trouvons qu'il y a beaucoup de minéraux, madame. Il y a beaucoup de minéraux, mais ce qui nous préoccupe, nous, c'est les minéraux, l'exploitation des minéraux d'or. N'empêche, il y a ceux-là qui s'intéressent de la castérite, il y a ceux qui s'intéressent du coltan, il y en a autant.
Vous qui exploitez le minéraux à Mwenga, vous vous heurtez par moments des difficultés ou bien tout se passe bien?
Madame, les difficultés sont énormes. Il y a celles liées à l'environnement, il y a celles qui sont liées aux conditions sociales. Il arrive des fois, vous allez là-bas, surtout quand il s'agit de périodes de pluie, il y a des éboulements qui est parmi les facteurs les plus dangereux. Il y a aussi la tracasserie des services de l'État. Il y a la tracasserie, madame, et le secteur minier comme c'est l'unique secteur qui est resté comme source de financement. En tout cas, il y a beaucoup de désordres. Il y a même des services qui ne sont pas habilités dans ces secteurs de mine qui s'improvisent. Il faut que l'exploitant ait des protections, il faut qu'il ait des gars, il faut qu'il ait l'équipier, il faut qu'il ait les salbettes, il faut qu'il ait des bottes.
Mais est-ce que tout cela est respecté?
Mais cela, malheureusement, n'est pas respecté par notre État à travers les services habilités. Et vous pouvez voir combien d'exploitants qui ont ces matériels de protection. Ils sont comptés au bout du doigt. Vous pouvez croire que vous exploitez de l'or alors que vous êtes heurté à d'autres matières radioactives qui produisent des rayonnements ionisants. Et c'est parmi les causes qui conduisent même à la mort de beaucoup des exploitants artisanaux, non seulement des artisanaux, même les industriels. C'est pourquoi il faut que le service puisse suivre. Est-ce que ces creusets respectent ces normes? Parce qu'il en va bien qu'il faut l'exploitation, il en va pour l'intérêt de l'État. Parce qu'il paye la taxe, il paye l'impôt, l'État en tire gain. Vous comprenez, madame? Et en contrepartie, il faut que ces derniers soient protégés. Ce qui n'est pas le cas ici chez nous.
Vous avez invoqué l'histoire de l'environnement. On reproche souvent aux exploitants miniers de détruire la nature. Que répondez-vous vraiment à ceux qui disent que vos activités contribuent à la déforestation, à la pollution des rivières, des eaux, etc.?
Je ne saurais pas affirmer comme infirmer. Nous allons répondre de deux manières. Mm-hmm. La première manière, d'abord, ces activités bien sûr polluent l'environnement. Elles polluent l'environnement parce qu'elles exigent beaucoup de moyens. Le premier moyen, vous êtes exploitant artisanal. Vous avez artisanal. Il faut, à un certain niveau, il s'agit d'une exploitation à ciel ouvert ou il s'agit d'une exploitation souterraine. Il arrive des fois quand vous êtes à ciel ouvert, on comprend. Communément appelé les Lukubikumbia, c'est à ciel ouvert, vous pouvez creuser au moins 10 mètres carrés, vous descendez 2 mètres, 5 mètres, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de l'exploitation souterraine, vous descendez à 10, voire même à 200, 500, 2000 kilomètres
dans les
sous-sols. Vous comprenez un peu. Vous pouvez commencer par ici où nous sommes maintenant et vous retrouvez, vous êtes déjà en Belekel alors que vous étiez où? À Lougouchois. Vous comprenez un peu. À ce moment-là, il faut construire. Ces sites-là, ces trous doivent être construits. C'est pourquoi il y a des ingénieurs. Il y a ce qu'on appelle les ingénieurs dans les secteurs de l'exploitation artisanale de minerais. Il y a ces ingénieurs, vous devez acheter des sticks d'arbres. Premier facteur défavorisant l'environnement. Oui. Vous devez couper les sticks d'arbres ici et là, dans la brousse, dans la forêt ici et là. Vous pouvez acheter auprès de ceux-là qui les vendent. Mais eux aussi, ils ont eu.
Ils ont aussi détruit l'environnement.
Ils ont détruit aussi quelque part. Vous achetez. Vous devez utiliser donc le planche. Ces planches sont venues d'où? Auprès des vendeurs qui ont eu ça dans la forêt aussi. Mm-hmm. Voilà le premier facteur. Deuxième facteur. Quand vous descendez dans les sous-sols, il y a l'émission des gaz à effet. Il y a d'autres minéraux que vous rencontrez là-bas. Et cette combinaison là-bas crée, n'est-ce pas, une combinaison géochimique, même environnementale et aussi thermophysique aussi, et qui doivent affecter l'environnement. Puisque vous descendez, il y a des dégagements, n'est-ce pas, et ça doit polluer l'environnement. Il y a éboulement de ces sous-sols. Quand ça se boule, c'est aussi un facteur qui défavorise. Mais aussi, plus vous travaillez là-bas, vous n'êtes pas seul, vous pouvez être à 200, à 500 personnes. Voilà, si vous imaginez, il y a 500 puits d'or. Il y a 500 puits. Il n'y a plus d'espace où les agriculteurs. Voilà que ça affecte l'agro-pastoral aussi. Il n'y aura plus les vaches ou le bétail peuvent brouter. Les cultivateurs, il n'y aura plus de champs, ils n'ont plus la chance de cultiver. Alors que les premiers facteurs macroéconomie, qui a enrichi même le monde le lendemain de la première et de la deuxième guerre mondiale, c'est l'agriculture pêche et l'élevage. Mais quand vous rencontrez dans les territoires de Mwinga, c'est les minéraux qui occupent le premier rang. L'exploitation artisanale occupe le premier rang. Voilà, aujourd'hui, il y a le boom des sociétés chinoises qui sont là aujourd'hui. Et ces sociétés, travaillent sous les dos, certaines travaillent sous les dos des coopératives minières locales, d'autres travaillent sous les dos des politiciens originaires de Mwinga et non originaires, qui ont un certain pouvoir d'influence au niveau national. D'autres travaillent indépendamment d'elles, sous couvert des autorités dont je ne vais pas citer les noms. Et ces sociétés là-bas, elles travaillent aussi dans les alluvionnaires. Ce qui est un manque à gagner de la part de la communauté locale. Comme je vous le disais au départ, l'exploitation artisanale du minerai revient seule aux nationaux.
Alors, comment est-ce que l'exploitation qui est directement octroyée aux seuls nationaux a été donnée aux internationaux et à d'autres personnes extérieures?
Merci beaucoup, madame. Je crois avoir répondu d'une manière ou d'une autre indirectement à cette préoccupation parce que je vous ai dit ceci. comme l'exploitation artisanale est révolue uniquement aux seuls nationaux, malheureusement, nous nous rencontrons aujourd'hui avec, nous nous faisons la guerre avec les internationaux, des sociétés internationales d'origine chinoise, à capitaux étrangers, des Chinois qui sont là, qui travaillent non dans l'industriel, mais ils sont à petite, ils sont dans les petites mines. Donc, il faut l'exploitation artisanale mécanisée, parce qu'ils utilisent les engins. Alors que les machines, là, dont ils utilisent, ne doivent pas être dans le secteur de l'exploitation artisanale. Pas l'exploitation artisanale à ses normes. Ah, sinon, on utilise ce qu'on appelle les belches, les mingwara, les marteaux, patati, patata. Mais dès lors qu'il y a des machines, madame, moi, je dirais qu'il s'agit d'une exploitation indicielle à petite échelle, si je ne m'abuse pas.
Mais on parlait toujours de l'environnement.
Oui, l'environnement, comme je vous le disais, l'environnement, il est exploité. Il est, comment dirais-je, Il est pollué. Je ne saurais pas dire que les exploitants artisanaux sont des pollueurs payants. Non, ils ne sont pas des pollueurs payants parce que presque les communautés locales n'en profitent rien. Et l'État qui en profite à travers ces tracasseries, il n'y a pas la redevabilité. Il n'y a pas la rétrocession. Rien n'est fait parce que si tu vois même dans les Mwenga, les routes, avec tout ce qui provient à Mwenga dans les sols et les sous-sols, les minéraux. Qu'est-ce que Mwenga gagne? Il n'y a pas de jolies écoles, il n'y a pas d'école de qualité.
C'est qu'il n'y a rien.
Donc, en bref, je suis sincère, il n'y a rien. Ça ne profite à rien.
Quelles actions concrètes, vous en tant qu'exploitant, mettez-vous en place pour cette population qui ne profite rien et cet environnement qui est complètement détruit?
Merci beaucoup, madame, pour ta question. Moi, en tant qu'exploitant artisanal, parce qu'il ne faut pas des dévolés, il y a l'exploitation artisanale, révolue aux seuls nationaux, considérée comme une activité de routine. C'est comme quelqu'un qui irait faire les champs, un agriculteur. Il quitte le matin, il part dans son champ, un alima mihogo, tu vois un peu, un alima biazi, un arudi, c'est fini. De même, moi, je me dis non, aujourd'hui, je ne vais pas à mon champ, je pars aussi dans la carrière. Peut-être là que je peux trouver aujourd'hui même. Je peux trouver un tige, je peux trouver un mouchale, je peux trouver un gramme, c'est là que Dieu m'a aidé. Je viens le même jour, je peux résoudre un problème de mes enfants, je peux trouver les 200 000, 300 000, comme un gramme actuellement, coûte les 350 000. Je peux trouver comment payer pour mes enfants, tandis que peut-être l'agriculture, ça prend beaucoup de temps. Ils voient un peu par rapport. Et c'est pourquoi
ça,
beaucoup de gens des Mwenga se donnent plus à l'exploitation artisanale des minéraux qu'à l'exploitation agricole. Vous comprenez un peu. Alors, en tant qu'exploitant artisanal, ma contribution est laquelle? Je ne la vois pas directement. Mais le fait d'aller là-bas, si je trouve quelque chose, ça me permet de payer les frais des études de mes enfants. Ça me permet de répondre quand même aux besoins, les besoins primaires. Donc, la ration ne peut pas manquer, le bouffe ne peut pas manquer. Peut-être un de mes enfants, madame, moi-même, je peux tomber malade, je peux payer quand même une cure facilement, tu vois un peu. C'est ça ma contribution. Les combles l'année que nous, en tant que les locaux et nationaux, exploitants artisanaux, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui en guerre avec des sociétés étrangères qui ne nous permettent plus de répondre à ces besoins. Par les espaces qui étaient révolus en celles nationaux que nous sommes, les autochtones, nous n'avons plus parce que les concessionnaires, Benimatongo, commencent à vendre ces portions de terre à des sociétés chinoises.
Pour recevoir beaucoup plus.
Pour recevoir beaucoup plus. Et ces plus ne profitent malheureusement à la communauté. Et vous verrez, il y a la complicité même des autorités locales, notamment
les
Mwami, les chefs de groupement, les chefs de territoire. Alors, les chefs de Mwami, on va passer auprès de lui, telle coopérative doit coopérer, doit convaincre les chefs de chefferie. Les Mwami, on lui dit non, vous aurez soit 5 000, vous aurez 10 000, par exemple, à chaque fin du mois. Et les Mwami qui doit peser sur sa population, et vous connaissez chez nous, au Burega, on est beaucoup soumis à la coutume. Car les Mwami a dit,
c'est le chef, hein.
Comprenez, payez les chefs.
Parlé.
Voilà, les chefs
ont dit. Amen.
Amen. Voilà.
Mais le territoire de Moenga est aujourd'hui militarisé avec la présence des FARDC et tout ce qui va avec les groupes d'autodéfense, ainsi de suite. Est-ce que cela affecte vos activités?
Ça affecte sensiblement. D'abord, nous sommes à court d'intrants. L'exploitation artisanale des minerais exige beaucoup de moyens et ces moyens proviennent des grands centres, notamment la ville de Bukavu, ça peut provenir de Kamituga, mais c'est surtout dans la grande ville de Bukavu, n'est-ce pas? Alors, dès lors que, avec la recrudescence de ce que nous connaissons des groupes armés, n'est-ce pas? Des groupes armés et les forces loyalistes, il y a une cacophonie et des ordres. D'abord, les écrans n'en avons pas. N'est-ce pas, si nous étions en train d'utiliser, nous n'en avons pas. Et si nous pouvons trouver localement, quand nous utilisons, vous vous rendez compte, c'est aujourd'hui les Bazalendo qui font incursion dans les sites, n'est-ce pas, et qui vous exigent chacun. Chaque puits doit donner ceci, chaque puits doit donner ceci. Vous donnez ce que vous n'avez pas produit. Et si vous n'avez pas donné, vous êtes victime. On vous chicote et puis vous suivez les dénonciations faites par les acteurs de la société civile. De tel puits, ça a été comme ça, les Bazalènes sont arrivés, les FADC sont arrivés. Et puis aujourd'hui, on ne sait plus identifier qui est Mouzalène et qui est FADC. Du fait qu'ils s'habillent de la même manière. Et il faut tous le même désordre. Les objets peut-être de recourir auprès des négociants pour demander ce qu'ils pourraient me donner autant pour que je puisse payer ceci, de peur qu'on ne soit assassiné. Nous sommes vraiment victimes de cette présence des FADC, ces Bazalendo, et surtout qu'ils ne sont pas contrôlés actuellement. En tout cas, ça met à mal l'exploitation artisanale des territoires des Moenga.
Parlons un peu de la gouvernance participative, inclusion surtout de la communauté, qui est aussi l'un des axes du projet ICFRD. On vise à renforcer la participation des communautés locales dans la gestion de ressources naturelles. Selon vous, comment impliquer davantage les habitants de Moenga dans les décisions concernant l'exploitation minière pour éviter surtout les tensions et favoriser la cohabitation pacifique?
Merci beaucoup, madame. C'est une question très pertinente. Comme je vous le disais tout au début, il y a deux manières d'exploitation. Il y a l'exploitation artisanale et l'exploitation indicielle. L'indicielle, c'est pour les grandes sociétés. C'est pour les grandes sociétés. Et pour qu'une société puisse commencer ses activités au regard des prescrits du code minier, n'est-ce pas? Il faut que cette société ait mené des études d'impact environnemental et sociétal. Il faut que cette société ait planifié un plan d'atténuation et de gestion de l'environnement. Comprenez, madame? Faut malheureusement, ces sociétés, certaines le font, mais ne mettent pas en exécution ce plan. Vous comprenez un peu? Ces sociétés viennent, certains ont du document, pour qu'elles puissent travailler dans les lycées, il faut qu'ils disposent soit au préalable un document appelé le permis de recherche. En second, il faut un permis de l'exploitation. Le permis de recherche pour cette société lui permet de mener d'abord toutes ces études dont je vous parle. Cette société doit mettre d'abord les études et savoir, moi j'ai acheté, il faut qu'elle ait acheté au moins un espace, un site minier auprès des services habilités, notamment les cadastres miniers qui habitaient dans ces domaines-là. Dès lors qu'il a réuni les conditions exigées par ces services de l'État, il faut qu'il aille aux services habités pour obtenir le permis de recherche. Pourquoi ce permis de recherche? Ce permis lui permettait à cette société de s'imprégner de ces dons élevés exploités. Peut-être elle a acheté ce permis parce qu'il doit identifier dans sa fiche, il doit remplir une fiche lui permettant d'obtenir ce périmètre. Il doit remplir une fiche. Qu'est-ce que tu veux chercher? Moi, je vais chercher de l'or. Alors, il faut qu'il mène les études qui doivent lui permettre de savoir est-ce qu'à tel endroit il y a de l'or ou il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des castérites? Est-ce qu'il y a les tantales? Est-ce qu'il y a les coltres? Est-ce qu'il y a ceci, cela? Quand ces sociétés finissent avec ces études normalement, conformément à la législation minière, cette société doit amener ses données dans des laboratoires. Ces laboratoires peuvent être installés sur les sols congolais ou à l'étranger selon la volonté de la société. Il faut que cette société ait respecté les codes douaniers dès lors qu'il fait des recherches sur le sol congolais, pour amener ses résultats, les échantillonnages, dans un laboratoire soit localisé au Rwanda, soit aux États-Unis, soit je ne sais pas où, il faut qu'il ait réalisé, il faut qu'il ait réuni les conditions exigées par les corps douaniers. Parce que ça doit transiter par la douane. Vous comprenez, madame? Aussitôt fini les recherches, il doit amener ses résultats. Ces résultats doivent être certifiés par un institut de géologie congolais qui doit s'assurer que voilà, à tel endroit, il y a tel minerai.
Est-ce que tout cela est respecté?
Malheureusement, cela n'est pas respecté. Laissez-moi vous le dire, madame. S'il y a 200 sociétés ici, au Sud-Kivu, peut-être il y a deux. Et je doute qu'il y a deux qui auraient respecté ce processus. Pour nous, comme autochtones, comme exploitants artisanaux, nous avons déjà été surpris. Ces sociétés peuvent venir avec ou sans les permis de recherche, mais vous ne saurez pas à quelle période ces sociétés avaient migré vers l'exploitation. Vous verrez directement les machines commencent déjà l'exploitation, mais on n'avait pas su à quelle période elles avaient fini les recherches, parce que ces recherches n'ont pas été certifiées par l'Institut qui pouvait, parce à base des résultats que ces sociétés pouvaient encore une fois rentrer au service habilité, notamment les ministères des mines, pour obtenir les permis de recherche, nous donnant le droit d'aller exploiter les minerais certifiés. Malheureusement, cela ne se fait pas. C'est le regret amer que nous avons pour le territoire congolais, particulièrement pour le territoire de Mwenga. Et à combien? Quand vous me demandez, est-ce que réellement il y a la participation de la communauté? Quelqu'un qui peut, qui veut, ben c'est moi qui soit le Moutou Mouniya Takoukou la chambre, à vous connaître la limite. Moutou Mouniya connaître ma résultat, attendre qu'on associe. Parce qu'il n'a pas si qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il
a pensé aussi.
Parce que ce qu'il ne t'a pas montré, il ne t'a jamais montré les limites. Dauphine ne pourra pas te dire qu'est-ce qu'il cherche. Tu comprends un peu? Pas, tu ne connais pas son intention et laquelle. Tu comprends un peu? Peut-être qu'il y a une autre intention. Il peut se passer à travers l'exploitation des mines. Alors qu'il vient
avec. Il cherche quelque
chose qui n'est pas les minerais. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi peut-être on ne nous présente pas les résultats des recherches. Et cela incombe la responsabilité de l'État congolais.
Alors qu'est-ce que la communauté peut faire?
Je n'ai pas fini. Je vais y arriver, madame. Qu'est-ce que ces sociétés devraient faire? Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord les études d'impact environnemental et social. Ok? Il faut que ces sociétés aient été en contact avec les communautés locales représentées par les acteurs sociaux qui doivent discuter sur les besoins exprimés par la communauté elle-même représentée par la société. La communauté, c'est ce qu'on appelle les cahiers de charges de la communauté. Ces cahiers de charges-là englobe tout ce qui est besoin exprimé. Parce qu'il ne faut pas que vous, comme société, vous venez vous dire nous allons construire un hôpital. Alors que ce n'est pas les besoins réels de la population. Il faut que ça puisse rencontrer le besoin exprimé par la population elle-même pour matérialiser les besoins réels de la communauté. Ces cahiers de recherche-là doivent inclure le besoin réel exprimé par la communauté. C'est en contrepartie, c'est la redevabilité de cette société vis-à-vis de cette population, de ces communautés locales affectées directement ou indirectement par les activités de l'exploitation minière. La partie alors de l'exploitation artisanale, n'est-ce pas, encadrée par les coopératives, il n'est pas exclu que cette coopérative, au regard de sa taille, ne peut pas contribuer aussi l'amélioration des conditions sociales et économiques du milieu. Elle peut contribuer. Si vous comprenez, je dis contribuer à l'amélioration, parce que ce n'est pas elle qui doit améliorer, elle doit contribuer en soi plus.
En termes de recommandations pour conclure cette émission,
nous, en tant qu'exploitants, nous recommandons d'abord aux sociétés minières étrangères, n'est-ce pas? Ils doivent d'abord respecter les cahiers de charges. Bien qu'elles aient harmonisé, si du moins elles harmonisent avec l'État, qu'elles aient tous les documents exigés pour exploiter, mais elles doivent savoir que la population, la survie des communautés en dépend. Parce que cette population qui est victime, qui est affectée directement, Il faut d'abord tenir compte des besoins réels exprimés par la communauté. Il faut remettre d'abord cette communauté dans leur droit. Ces espaces que vous occupez sont des espaces qui servaient des rations, qui étaient les poumons de toute la vie d'une communauté. C'est là que ces populations cultivaient. C'est là que ces populations créaient leur communauté appelée Miamba, les piscines, le temps que tu vois les états piscicoles.
Oui.
Alors que la communauté vit de ça. Vous venez vous détruisez. Cette population vit comment? Et c'est ce qui explique que vous rencontrez, il y a des coiffures corps. Il y a les milliers, il y a les marasmes, parce que les enfants n'ont plus quoi manger. Beaucoup d'enfants n'étudient plus parce que son papa pouvait aller dans telle carrière, il exploite, il paye pour les enfants. Beaucoup d'enfants, mères, beaucoup, non seulement les enfants, mais beaucoup de personnes mères dans les maisons par manque de comment se faire soigner. Alors que les sociétés ont déjà occupé. Mais si ces sociétés auraient pris les besoins exprimés des populations en compte, ces problèmes-là seraient résolus, bien que la population ne gagne pas grand-chose.
Merci beaucoup, cher invité. Le temps déjà nous accueille. Nous sommes très ravis de vos propos et aussi merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est nous qui vous remercions, madame, de nous avoir invité à participer à cette émission.
L'exploitation minière à Mwenga reste un sujet sensible où se croisent l'espoir des richesses et des drames humains. Il revient à chaque acteur exploitant, État et communauté, de jouer sa part pour que ces ressources deviennent une bénédiction et non une malédiction. Terre promise ou enfer vous a été présenté par l'organisation ICPRD en collaboration avec Grand Lac TV. Merci à Vision Chala Kamituga qui diffuse nos émissions. Je suis Marie-Adrienne Riziki, je vous ai présenté cette émission sous la coordination de John Shindano. Retrouvez-nous en podcast sur http://grandlactv.info et sur d'autres plateformes digitales. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un tout autre numéro. Au revoir.